France Inter.
Bonjour à toutes et tous, je suis Johanna Siméon-Germanos, je suis politiste et une des signataires de la tribune. Alors certains d'entre vous m'ont entendu ce matin. Je voulais effectivement, notre nom à tous, d'abord envoyer notre solidarité à tous les collègues, tous les étudiants américains.
Stand up for science. Les scientifiques dans la rue le 7 mars face à l'offensive obscurantiste de Donald Trump.
Tous ceux qui sentent le sol glisser sous leurs pieds, parce que ce qui se passe là aujourd'hui, c'est pas une question corporatiste de défendre les boulots des scientifiques, c'est bien au-delà, c'est qu'est-ce que c'est que la possibilité de dire le vrai sur le monde en général, sur le monde social en particulier. Et ça, ça suppose de réfléchir à toutes les alliances avec tous les alliés de la connaissance. C'est pas seulement les universitaires, c'est pas seulement les chercheurs, c'est tous les gens qui essaient de faire décemment leur travail, de décrire ce qui se passe. Ça peut être les journalistes, ça peut être les gens dans tout un ensemble d'institutions où on voit bien qu'il y a une mesure qui ne colle pas. On voit bien qu'il y a quelque chose qu'on doit faire remonter et qui doit être une information qui accède au débat public. Et donc si on peut arriver à cette alliance-là de tous les gens qui essaient de réfléchir à ce vrai, on a peut-être une chance de s'en sortir, on a peut-être une chance de faire reculer cette chose terrifiante qui avance. Là, on voit bien que ceux qui sont menacés au premier chef, c'est quand même les sciences du climat, les sciences de la biodiversité, à qui on ne laisse plus le droit de dire qui est frappé, comment on est affecté par le changement climatique. Il faut être capable de faire bloc, et il faut être capable de faire bloc contre ce qui se passe aux États-Unis et aussi contre ce qui se passe ici. La réduction des budgets de la recherche, la mise en crise des universités, le harcèlement nominal des gens sur les réseaux sociaux, c'est aussi en France que ça se passe. Et donc, attendons pas qu'un mouvement de solidarité de collègues ailleurs nous viennent en soutien en France. C'est aujourd'hui qu'il faut être capable de se défendre pour faire exister nos métiers, pour faire exister la science, pour défendre nos institutions. Parce que comme le disait Patrick Boucheron ce matin, il faut qu'on soit capable de défendre les institutions. Ça ne veut pas forcément dire que les institutions, elles, nous défendront. Merci à vous.
C'était le 7 mars devant la fac de Jussieu à Paris, trois jours après la publication de la tribune « Défendons les sciences face aux nouveaux obscurantismes » dans le journal Le Monde, en écho au mouvement américain de protestation contre la politique de Donald Trump, « Stand up for science ». Des milliers de citoyens, citoyennes et scientifiques se sont mobilisés dans toute la France pour signifier leur inquiétude et leur colère. Et une série de manifestations se sont déroulées dans la foulée. Les semaines suivantes en France, j'y étais aussi. L'université et la recherche sont sur le qui-vive et se mobilisent pour sauver la connaissance, sa transmission et son partage par le plus grand nombre, gage de démocratie éclairée. La véracité des faits scientifiques, notamment pour la santé, pour la compréhension des inégalités sociales, pour les défis climatiques et la biodiversité, n'est ni une option ni une opinion. À contre-vent, dans la rue et dans les labos, c'est tout de suite.
France Inter. Contre-vent. Antoine Chao.
Là, c'est la banderole de tête, hein. C'est debout pour la science. Hein.
C'est ça.
Alors, c'est le mouvement aux États-Unis qui a repris ici. Raconte-moi un peu la naissance du mouvement et,
oui, alors,
et cette manif aujourd'hui.
La naissance du mouvement, c'est les jeunes scientifiques américains qui l'ont lancé face à ce qui est en train de se passer aux États-Unis, la destruction de toute l'infrastructure fédérale de recherche, en fait, avec des blocages de crédit, des gens qui sont interdits d'aller en congrès, etc. Et en fait, nous, on l'a repris aussi en soutien, évidemment, aux scientifiques américains, mais aussi pour alerter sur les risques qui pèsent aussi sur la science dans le monde entier. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. En Argentine, c'est déjà arrivé que la science soit attaquée. C'est vraiment une attaque contre la démocratie, en fait. Ce n'est pas juste une attaque contre les scientifiques, mais c'est vraiment une attaque contre la démocratie, la science comme un support, comme les lumières d'une société progressiste et ouverte.
Et aux États-Unis, ça commence quand alors? Le mouvement, il se crée quand? Juste après l'élection de Trump, c'est ça?
En fait, il a démarré maintenant quand Trump et Elon Musk ont commencé à s'attaquer vraiment au budget du NIH, où en fait, ils ont attaqué aussi, ils ont interdit la publication de certaines données scientifiques, que ce soit sur le climat, sur la santé, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, les scientifiques américains et surtout les jeunes, en fait, ont commencé à se mobiliser. Et j'espère qu'aujourd'hui, ils seront nombreux aussi aux États-Unis à manifester voilà, pour promouvoir la science et la démocratie. Hein.
Tu veux bien te présenter?
Oui, moi je suis Fécrier Selimi, je suis chercheuse au CNRS et chef d'équipe au Collège de France en neurobiologie.
Merci.
Merci. fondation de la Maison des sciences de l'homme, école des hautes études en sciences sociales.
Ouais donc, qu'est-ce que je peux pour toi ?
J'ai rendez-vous avec Francis Chateaureno, qui est sociologue et directeur d'études, ici même à l'EHESS, fondateur du groupe de sociologie pragmatique et réflexive, GSPR, et à l'origine du concept de lanceur d'alerte. Ses travaux portent sur les controverses technologiques, sanitaires et environnementales et sur les formes d'emprise contemporaine.
Donc, qu'est-ce que tu veux savoir ?
Bah écoute, moi j'aimerais que tu me parles un peu de cette mobilisation, cette inquiétude qui traverse le monde de la recherche et qui s'est traduit par ces différentes mobilisations là, dernièrement, ces manifs mobilisations.
C'est parti de loin tout ça. Il y a eu des réformes qui ont été mises en place au début du siècle, hein, début des années 2000. Il y a eu une première rébellion en France, mais dans pas mal d'endroits en fait, de manière très différente. Hein. Mais en France, c'était assez spectaculaire, c'est en 2004. Une grève des directeurs de labos du CNRS qui a mobilisé pas mal et fait pas mal de bruit. Et il y a eu du coup un mouvement qui s'est étendu, qui a donné lieu à la construction de nouvelles coordinations à côté des syndicats, où les gens ont commencé à parler de leurs expériences de la recherche, du mal-être au travail, des problèmes de financement, des problèmes de pilotage de la recherche. Et il y a eu des états généraux qui se sont tenus en 2004, à la fin de l'année. Et paradoxalement, c'est de là que sont nées les deux agences qui posent problème. Hein, qui sont, bon, on peut en discuter. L'ANR, l'Agence nationale de la recherche, qui était donc « Ok, on va vous donner de l'argent, mais par projet. » C'est-à-dire, vous soumettez des projets. Ça a commencé 2005-2006. Et l'AERS, l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui est sortie de ces états généraux. Donc déjà, tu vois... Le verre est dans le fruit, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'était considéré comme un compromis qui permettait de sauver la recherche, hein, parce qu'il y avait d'ailleurs des collectifs qui s'appelaient comme ça, SLR, Sauvons la recherche. Moi, je m'étais intéressé à cette question-là, parce qu'à l'époque, je travaillais sur toutes les formes de mobilisation, et ma question théorique, sociologique, c'était qu'est-ce qui fait que certaines mobilisations parviennent à des résultats, d'autres pas du tout ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elles montent en politique et elles deviennent des sujets repris, qui tournent, etc. Ou au contraire, elles se spécialisent et elles deviennent vraiment des affaires de quelques-uns, tu vois. Donc j'avais travaillé sur ce cas-là et dans le bouquin qui s'appelle « Argumenter dans un champ de force 2011 », il y a tout un chapitre sur les mobilisations des chercheurs. Donc, c'est pas vrai. En 2009, ça recommence parce qu'arrive au ministre de la Recherche une dame, une grande scientifique, nobélisable, Valérie Pécresse. Non, c'est vrai, elle a été ministre de la Recherche. Sous Sarkozy, et d'ailleurs assez longtemps, je crois. Hein. Je ne sais pas si elle est restée jusqu'au bout. Peut-être pas, parce qu'il y a eu Wauquiez aussi qui est arrivé à un moment donné. Aussi un grand scientifique. Ah, il était agrégé d'histoire, donc là, c'était respect. Hein. Et donc, Pécresse, elle a entamé des réformes sur la recherche assez violentes, avec justement donc une montée en puissance de l'évaluation, une mise en tension des établissements publics, une pression sur la sélection des étudiants, sur l'autonomie des facs, etc., etc. Et donc là, il y a eu une mobilisation historique. On n'a jamais vu autant de monde dans la rue pendant 6 mois, de janvier, enfin fin janvier à juin, avec toutes sortes de mouvements. Là, on retrouve les archives sur Internet. Hein. Et là, il y avait SLR, selon la recherche, qui avait pris les devants du truc, les syndicats, toutes les disciplines, y compris des sciences de la Terre, des biologistes, des gens de l'INRA, des gens du CNRS, du Muséum. Tu vois, c'était pas que les universitaires et pas que les sciences sociales, parce qu'après, les sciences sociales vont devenir la bête noire. Disons. Donc après, il y a eu cette mobilisation a échoué. Les réformes Pécresse ont été mises en place. Il y a eu plein de changements dans la manière de gérer les carrières, de gérer les évaluations, de gérer les masters, enfin, etc., etc. Avec en plus un début de regroupement, essayer de faire des pôles d'excellence, des trucs comme ça, tu vois. Et ensuite, il y a eu à nouveau une mobilisation en 2012-13, peut-être 14, avec, sous Hollande, là, sous la gauche, où il y a eu une réforme qui était portée par Fioraso, qui était ministre de la Recherche, et qui visait à faire des énormes universités, tout ça avec derrière l'objectif complètement stupide de monter dans le classement de Shanghai. Espèce de truc que sort, que même les Chinois n'ont pas compris pourquoi c'était devenu une norme internationale, tu vois. C'était pour aiguiller leurs étudiants au départ, tu vois. C'est vraiment... Bon, voilà. Là, il y a vraiment eu un problème. Bref, ça a recommencé. Mobilisation, c'est quand même passé. Il y a eu pas mal de choses qui ont été changées à nouveau. Des contraintes, toujours plus de pression. Et donc, des gens commencent à péter les plombs, à être en burn-out, à vivre très mal les tensions avec les gouvernances, entre guillemets, des grands pôles, justement, en constitution. Ici, à l'EHESS, on a décidé, et ça a été une lutte, de ne pas rejoindre Paris Sciences Lettres, parce que l'idée, c'était de forcer tout le monde à rentrer dans les grands rassemblements, PSL. Donc, ça a été un combat et qui a fissuré l'institution. Hein. Il y a vraiment les pour et les contre, et on voit encore aujourd'hui les conséquences. Bref. Il y a eu plein de trucs comme ça, et ça a recommencé en 2018 avec Parcoursup. Parcoursup, les étudiants dans la rue, bien réprimés d'ailleurs, avec des problèmes. Hein, c'était déjà, il y avait déjà eu la loi travail, hein, je te rappelle. Là, c'était 2018, sélection, pression sur les cursus, et par ailleurs, une répression avec des manifs assez durs, où c'était quasiment la préfiguration de ce qu'elle allait faire aux Gilets jaunes. Hein. On était déjà dans une montée en puissance de la répression des mouvements sociaux sous Macron. Et donc, 2018, pareil. 2020, ça recommence. Il y a la LPPR, la loi de programmation pluriannuelle, je sais pas quoi, de la recherche, qui définit les grands axes, les financements, etc. À nouveau, mobilisation, mais boum. Comme pour les retraites, ça tombe, si tu veux, au moment du Covid. Et là, ça retombe. Et ça revient juste un peu plus tard. Et on a toujours... Donc, c'est pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit aujourd'hui, si tu veux, que ce soit des manifs, que ce soit des pétitions, des tribunes, parce que les chercheurs sont très bons pour faire des tribunes. On est super doués, tu vois. On fait un texte. On le balance sur une plateforme, on fait signer les collègues, et après on essaie de le placer sur un média. Tu vois. Évidemment, c'est de l'indignation, c'est de la critique, c'est de la dénonciation. On est souvent d'accord avec ce qui est dit, mais c'est relativement impuissant. C'est et voilà que Trump revient. Bon, les gens sont un peu sidérés, quand même, parce qu'on dit la démocratie américaine, une constitution exceptionnelle, pensée par des grands génies, c'est vrai, de la philosophie politique. Hein, on ne va pas refaire l'histoire. Et donc, une constitution qui résiste à plein de choses. Et tout à coup... T'as un gouvernement zarbi, mais dont on ne sait pas s'il va tenir longtemps, d'ailleurs, parce que tellement il est zarbi, qui fout tout en l'air. Bon, on savait qu'il y avait un fond climato-sceptique très fort aux États-Unis, quand même, mais une science triomphante, depuis surtout, évidemment, l'après-guerre, une science qui a imposé ses standards au monde entier. Alors, on publie en anglais, on publie dans les revues américaines. Si on n'a pas un Américain dans son réseau, on est un blaireau. Excuse-moi, j'adore les blaireaux, par ailleurs. J'ai dit, attention. Je ne veux pas dire du mal des blaireaux, je défends les blaireaux, avec le fameux guitariste que tu connais, Brian May, l'ancien guitariste de Queen, qui est un grand défenseur des blaireaux. Ça, c'est un point commun que j'ai affirmé.
Et le fait de jouer de la guitare
oui, aussi. Oui, mais ça, il y a plus de guitaristes sur cette planète que de... Ouais, bon, bref. Et du coup, tout à coup, le mec, il décide de tout casser.
This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Energy emergency, we will drill, baby, drill.
France Inter. Antoine Chao. Contre vent.
La manif va bientôt commencer, on va bientôt commencer à marcher, mais on attend encore les derniers retardataires. Donc...
Jeudi 27 mars 2025, place de la Sorbonne, Paris. Mobilisation contre les coupes budgétaires dans l'éducation nationale, dans la recherche.
On commence dès maintenant les slogans.
Alors aujourd'hui, 27 mars, il y a une mobilisation nationale.
Oui, mobilisation nationale. Alors c'est pas la première, hein, ça fait quand même depuis le mois de décembre qu'on se bat contre l'austérité budgétaire que subissent les universités et la recherche publique. J'insiste sur public parce que le privé, lui, se porte très bien. Il y a énormément de financements qui vont dans les établissements privés. Il y a de plus en plus d'étudiants qui vont dans des établissements privés, souvent malheureusement dans d'assez mauvaises conditions en termes d'encadrement et de laboratoires de recherche. Mais l'enseignement supérieur public, lui, est vraiment en grande difficulté parce que le budget diminue d'année en année.
Alors, le monde de la recherche est inquiet hein, en ce moment, quoi.
Ah, il est plus qu'inquiet, il est très en colère, ouais, le monde de la recherche. Les universités, le CNRS, effectivement, les organismes nationaux de recherche, les ONR, nous sommes très en colère, c'est une évidence.
Alors toi, tu es chercheur ? Enseignant ?
Je suis enseignant-chercheur à l'université à Paris 8. Voilà, les universités sont à l'os, elles n'ont plus de sous, ça se passe très mal, on n'a plus de moyens, la précarité est partout. Donc voilà, donc on descend aujourd'hui pour signifier que on n'est pas content et on est en train de casser l'enseignement supérieur, enfin d'une manière générale le service public d'enseignement supérieur et de la recherche. Voilà, de faire dysfonctionner quand il n'y aura plus de budget et que tout sera bien cassé et que ça ne marchera pas, on dira, bah, vous voyez, il y a nécessité de confier tout ça au privé. Donc, c'est cette démarche-là qui est sous-jacente à tout ce qui se passe. Enfin, la dynamique est la même, à savoir, par exemple, le crédit d'impôt recherche. C'est-à-dire que un système en fait, qui permet aux entreprises de prendre des doctorants et d'avoir avoir des impôts à payer en moins, effectivement, c'est un soutien du public à la recherche privée. Donc on est dans la même logique, la même dynamique, c'est-à-dire qu'une part de ce qui revenait au public, effectivement, va passer au privé, y compris dans la recherche. Notamment les gros centres de R&D, des grosses boîtes.
Recherche et développement, quoi.
Voilà,
c'est ça.
Absolument, recherche et développement. Ça peut être Orange, ça peut être Renault, ça peut être... Enfin bref, toutes les grosses boîtes qui ont besoin effectivement d'avoir de la recherche en interne pour développer des produits, déposer des brevets et améliorer un certain nombre de choses. Bah effectivement, les aides publiques tombent, là, ça c'est clair aussi. Alors à tout ça va se greffer la fameuse économie de guerre, et donc bien évidemment, bah, l'armement, le complexe militaro-industriel a toujours été, notamment aux États-Unis, très très en phase avec la question de la recherche. Ces deux domaines qui dialoguent, qui sont emboîtés les uns dans les autres, et donc là on nous promet effectivement une recherche... C'est sûr que les sciences humaines et sociales vont en prendre plein le nez et puis on va effectivement dire qu'il va falloir effectivement plutôt financer certains secteurs de la recherche susceptibles de soutenir effectivement l'effort de guerre et...
Et se libérer un peu des wokistes des sciences sociales qui gangrènent les universités.
Oui,
quand même.
Bah bien sûr, bah ça c'est... ça, on a eu le droit à un certain nombre de choses sur la question... On pensait que c'était avec le départ de Blanquer un peu tombé, etc. Mais il y a des bouquins qui ressortent assez régulièrement, etc. Il y a un bouquin au PUF qui vient d'être publié également, etc., qui explique toutes ces vilaines choses et la gangrène idéologique du wokisme qui traverserait les universités françaises et les départements de sciences humaines et sociales, évidemment. Enfin, ça fait partie du lot, tout ça. Ouais.
On voulait étudier, pas manifester. Non à la fabrique de l'ignorance. Pas de budget de 10 euros par doctorant. Université en danger. L'enseignement supérieur aujourd'hui, c'est la recherche demain aussi, hein, c'est ça, non ?
Oui, exactement. Enfin, si déjà, nous, nos doctorants sont dans la merde à cause du budget, qu'est-ce que ce sera, nous, si jamais on décide de faire un doctorat ? On aura quoi ? 1 euro par doctorant ? Mais c'est pas possible, c'est pas tenable. Sinon, c'est vraiment inquiétant, franchement.
Vous avez quel âge ?
18 ans. On est en première année d'études.
Et toi, t'as 100 doctorants, plus d'étudiants.
Plus d'étudiants, oui, tout à fait. Parce que bah, vu que nos doctorants, là, actuellement, ils sont en grève parce que bah, ils ont plus de budget. En fait, on a plus cours et enfin, je veux dire, c'est tout. On est tous affectés en fait. Enfin, quand on essaye de toucher les doctorants, c'est les étudiants aussi qu'on touche. Et je veux dire, ne plus avoir accès à l'éducation, c'est vraiment un problème. Et on devrait y avoir tous accès.
Nous là, on a 18 ans, on vient d'arriver à la fac. On n'est pas, enfin personnellement, on n'est pas dans des syndicats. C'est juste que bah, on soutient la cause étudiante, on soutient nos camarades et on soutient aussi nos profs parce qu'on voit bien ce qui se passe pour eux. Et ça va globalement dans le sens de tout ce qu'il y a, même ce qui se passe aux États-Unis par rapport à l'extrême droite. Il n'y aura plus de faits véridiques et on pourra raconter n'importe quoi. Il n'y aura personne pour aller vérifier les informations.
Alors, il y a un autre élément qu'il faut rajouter.
Francis Chateau-Reyno.
Et qui n'était pas a priori connecté à ça, c'est la question de la liberté d'expression. Jusqu'en 2020, tu vois, en gros, il commençait à y avoir des signaux, mais en gros, c'était pas, il y avait pas d'attaque sur un chercheur pouvait sortir un truc. Il y a des zones rouges, mais en gros, tu pouvais t'exprimer, par exemple, au hasard sur la Palestine, tu vois, ça ne posait pas énormément de problèmes. Aujourd'hui, il y a une attaque, alors qui a commencé avec sous les thèmes d'islamo-gauchisme. Qui s'est spécifié ensuite sur l'écologie avec l'écoterrorisme, les deux n'ayant aucun rapport, mais en fait, dans l'opinion publique, ça devient la même chose. C'est ces chercheurs publics payés par nos impôts qui passent leur temps à critiquer le système dans lequel qui les nourrit. C'est ça qui est derrière, hein. C'est ça l'extrême droite. Hein. Et puis, si tu veux, de plus en plus, donc, le wokisme, qui est un mouvement critique aux États-Unis, effectivement, plutôt dans les facs de sciences sociales, mais assez général, qui renvoie à toutes les luttes d'émancipation qu'on connaît, et qui sont quand même plutôt vertueuses. Et woke, ça veut dire éveillé, ça veut pas dire... tu vois, c'est même pas punk, quoi, tu vois, c'est... Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, parce que le wokisme est devenu un sujet de débat permanent, alors évidemment manié par, on ne va pas les citer parce que ça leur fait de la pub, mais des chaînes en continu, des plateaux télé qu'on connaît. Alors, en gros, toute la constellation, si tu veux, de médiatico-politique de droite et d'extrême droite, et y compris d'ailleurs à l'intérieur même des milieux dits éclairés de gauche avec le printemps républicain, etc. Et donc, ils vont reprendre des thèmes sur l'islam en particulier, ou sur l'islamisation des esprits, ou sur des choses comme ça. Et ça a fini par produire plein de dérapages, à la fois localement dans les établissements, sur certaines personnes qui sont devenues un peu des boucs émissaires, et sur ce qu'on ne voit jamais, c'est-à-dire l'autocensure. C'est-à-dire que, moi je le vois ici dans cette maison, hein, les gens disent, ouais, tu sais, moi, j'ai quand même mes doctorants, j'ai mes contrats de recherche, j'ai mon programme, je fais pas de politique. Entendu, la politique, là, vraiment, sur des choses qui mériteraient quand même, historiquement, tout chercheur scientifique un peu honnête, il y a des choses qu'il ne peut pas laisser passer. Et c'est pas faire de la politique au sens de s'engager, comme à une époque avec le communisme. C'est vraiment simplement des fondamentaux. Qu'on appelle à la fois des droits, et dans lequel la recherche est une espèce de lanceur d'alerte naturel. C'est-à-dire que si la recherche est attaquée dans un pays, tu peux dire qu'en fait, tu peux le dériver sur le droit du travail, sur la vie ordinaire, sur le vote, sur les élections, sur la corruption. Tout est vérolé, parce que la recherche, c'est quand même un lieu qui a été conçu pour que les gens puissent librement expérimenter, discuter, publier, lancer des enquêtes qui parfois deviennent des enquêtes à charge. C'est pour ça qu'on va pouvoir recroiser les questions d'environnement assez vite. Parce qu'à un moment donné, on le sait que les pesticides, ça tue aujourd'hui. Il faut arrêter. Il n'y a pas de débat, en fait. Il ne devrait pas y avoir de débat. Il devrait y avoir des politiques publiques dures. Parce que la science a fait la démonstration. Sur le climat, c'est pareil. On n'en est pas à discuter de savoir si ou non, bon, ça va se réchauffer. Et alors, tu vois ? Ben non, quand la science a fait son boulot et qu'on voit qu'en fait, à l'extérieur, ça résiste à tirer les conséquences de ses connaissances, on fait de la politique, qu'on le veuille ou non.
France Inter, contre vent.
Appel intersyndical.
Antoine Chao.
Jeudi 3 avril, après la réussite des manifestations du 27 mars.
Moi, ouais, je vous ai vu le 27. Ouais.
Poursuivons la mobilisation le 3 avril avec la fonction publique pour le service public de l'enseignement supérieur et la recherche.
Secrétaire général du SNESUP-FSU, qui est le syndicat des enseignants du supérieur. Ouais.
Si on casse l'université, qui est quand même un des remparts contre les idées d'extrême droite et réactionnaire, hein, globalement, puisque plus on élève le niveau de formation, plus on sait qu'on est en capacité d'avoir un esprit critique et de se positionner par rapport à des idées qui ne sont pas au service de tous. Si on met à mal l'université aujourd'hui, ces idées-là, elles auront beaucoup plus le loisir de prospérer sans obstacle. Donc, en fait, on voit bien que l'université dérange, la recherche dérange, et les connaissances scientifiques, elles sont reléguées au rang d'opinion comme une autre, en fait. Hein. Aujourd'hui, sur les réseaux, ça a autant de valeur. Quelqu'un qui affirme quelque chose a quasiment autant de valeur qu'un scientifique qui affirme quelque chose et qui, lui, ancrait son affirmation dans tout un protocole de recherche. Quoi. Donc, c'est ça qui est particulièrement inquiétant. Il y a un discrédit de la science qui est énorme.
Appel à mobilisation contre les pesticides. Marche vivante pour un printemps bruyant. Samedi 5 avril 2025, Paris. Rendez-vous 14h au Muséum National d'Histoire Naturelle. Zéropesticide.info.
Alors la campagne d'extinction rébellion, changement de régime, est un acte de résistance face à l'agriculture intensive.
Il y a beaucoup de drapeaux extinction rébellion.
Et face à ces conséquences catastrophiques
de toutes les couleurs.
Sur la biodiversité, sur les sols, l'eau, l'air et sur tout le vivant.
Sur cette marche, plusieurs milliers de personnes, nos vies comptent plus que leurs profits. Les soulèvements des vers de terre. Nous sommes le vivant qui se défend, rejoignez Extinction Rébellion.
Nous empoisonnement dû aux pesticides.
Soignante contre les pesticides.
Nous dénonçons l'empoisonnement général dû aux pesticides.
Stop à la monoculture de bananes. Stop au chlordécone.
Pour organiser cette marche, Extinction Rébellion et Scientifiques en Rébellion ont été rejoints par Agir pour l'Environnement, Alerte Médecins contre les Pesticides, Citoyens pour le Climat, Nous Toutes, Peuple Solidaire Action Aide, Secret Toxique et Sud Recherche. Merci, un très grand merci à elles et eux, tous et toutes. Merci à vous.
Scientifiques en Rébellion, face à la crise écologique, la rébellion est nécessaire. Bonjour.
Bonjour.
Je peux vous poser deux, trois questions? Je fais de la radio à Radio France, notamment, et à France
Antoine
Inter.
Antoine Chao. Ah, mais je suis hyper content de vous rencontrer. Ah, j'ai suivi toutes vos émissions là, jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent, là, malheureusement.
Bah,
non,
voilà.
En fait, on va plutôt vous poser plein de questions, nous.
Non, on peut travailler ensemble.
Alors, dans la rue aujourd'hui, les scientifiques, bien évidemment, plus que jamais.
Oui, scientifiques et soignants, en fait, parce qu'aujourd'hui, nous deux, typiquement, on est là à double titre, parce qu'on a les chercheurs, mais il y a aussi les soignants qui commencent à mettre en avant le fait que les pesticides, ça a un impact réel sur la santé des humains, mais sur la santé de tous les autres êtres vivants, les écosystèmes, les sols, les milieux. Tous les milieux sont contaminés aujourd'hui, et c'est ce qu'on est venu dire aujourd'hui, en fait.
En tant que scientifique en rébellion, c'est ça, ou médecin en rébellion?
Alors scientifique en rébellion et aussi praticien hospitalier.
Moi, je suis pareil, scientifique en rébellion, et je suis médecin, voilà, praticien hospitalier également, à Toulouse. J'ai fait le déplacement pour râler contre la diffusion de ces pesticides encore et encore.
Bah, en fait, il y a de plus en plus de scientifiques qui sortent des labos pour justement mettre en avant les résultats de leurs études. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'on a beau chercher, trouver, prouver, et finalement, les pouvoirs politiques ne s'en emparent pas du tout. Et c'est bien ça qu'on est venu aussi dénoncer aujourd'hui, c'est que les connaissances, on les a. Il suffit juste de les appliquer pour que la santé soit meilleure pour tous les écosystèmes.
Les connaissances, on les a, et les solutions également, on les a, notamment par rapport aux pesticides. C'est prouver qu'il y a des alternatives avec l'agroécologie. Il faut qu'on mange mieux du bio et pas des pesticides. Et ça rejoint quelque chose qui est extrêmement important, c'est la justice sociale. Tout ce qu'on dit, il faut que ce soit applicable à tout le monde, y compris aux plus défavorisés, qui sont ceux qui vont payer le plus grand tribut à toute cette... cette épidémie de toxiques qui existe dans l'environnement, dans l'alimentation, dans l'eau. Voilà. Donc il faut qu'on sorte de ce système.
Il y a eu une époque, alors peut-être que ça posait des problèmes, où il y avait ce qu'on appelait des grands commis de l'État, c'est-à-dire des gens qui avaient une compétence scientifique ou une compétence au moins technique ou juridique, tu vois, à minima, sur les questions, qui étaient capables de discuter en amont avec les porte-parole ou les chefs d'établissement ou les chercheurs en vue, parce qu'il y a un peu de tout, tu vois, et de comprendre la situation. Là, aujourd'hui, ça s'est perdu. Il y a un fossé qui s'est creusé.
Alors, la Confédération paysanne, les organisations paysannes ont aussi voulu donner la parole aux victimes de ces pesticides, aux victimes de cette agriculture. Et du coup, je laisse la parole à Fleur de Cancer Colère qui prend la parole.
Lundi 30 juin, des centaines de paysannes, paysans, scientifiques, médecins et malades se sont mobilisés dans plus de 60 villes en France et devant le Sénat pour alerter sur les dangers de la loi Duplon, examinée en commission mixte paritaire ce jour-là.
Salut tout le monde!
Et Fleur Brotteau de Cancer Colère prend la parole.
Je suis obligée de lire parce que j'ai des trous de mémoire à peu près toutes les 30 secondes. Alors ce matin, j'ouvre mon ordi et qu'est-ce que j'entends? J'entends les craintes. Mais le gouvernement souhaite que le texte de la loi Duplon soit adopté. Ce sont les mots d'Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, sur TF1. Alors en fait, Annie, si tu m'imposes l'acétamipride, prends mon cancer. Prends nos métastases, prends nos cicatrices, prends nos gueules cassées, prends la chimio, prends les traitements violents, vomis à notre place et on en reparle. Après un week-end de mobilisation dans toute la France, des milliers de personnes, elle entend les craintes. Si nous ne sommes pas surpris, l'aveu est monstrueux. En pleine épidémie de cancer, alors que les bombes sanitaires éclatent chaque semaine depuis des mois, avons-nous des craintes parce que nous sommes toutes et tous empoisonnés au cadmium, à cause des engrais de synthèse phosphatés importés massivement de Russie? Avons-nous des craintes? Parce qu'à chaque cuillère d'huile alimentaire, merci le sieur, merci Arnaud Rousseau, il y a aussi de l'hexane, un hydrocarbure utilisé comme solvant. Cet hexane présent aussi dans le beurre et les œufs. Avons-nous des craintes parce que 69% des poissons contiennent des perturbateurs endocriniens? Avons-nous des craintes parce que le tsunami de cancer qui arrive va frapper les plus jeunes? Avons-nous des craintes parce que l'acétamipride, dont la FNSEA et la ministre de l'Agriculture exigent la réintroduction, s'attaque au fœtus, qu'il est reprotoxique et neurotoxique? Avons-nous des craintes parce que l'eau potable est presque partout contaminée aux pesticides? Avons-nous des craintes car vous confisquez le débat démocratique sur la loi du plomb et que vous vous cachez des Françaises et des Français? Que vous pourriez, je l'espère, un jour faire face à la justice pour répondre de ces actes irresponsables? Avons-nous des craintes parce que vous censurez une étude d'impact des pesticides sur les riverains? Avons-nous des craintes parce qu'un verre d'eau, une tartine de pain beurré ou une pomme vont bientôt nous intoxiquer? Nous n'avons pas des craintes, Madame la Ministre. Nous sommes en colère. Et notre colère est bouillante. Car vous méprisez notre santé. Vous méprisez les malades, ex-malades et futurs malades du cancer. Vous méprisez les agriculteurs et les riverains. Vous méprisez la science. Vous méprisez la jeunesse. Vous méprisez les femmes enceintes. Derrière vos mots et votre mépris se cachent des conflits d'intérêts qui sont en train de tout bousiller. Les choses sont claires. Vous avouez donc laisser carte blanche à la FNSEA pour décider de la politique de santé publique de notre pays, de l'avenir de l'agriculture et de la destruction méthodique de l'environnement, de l'empoisonnement généralisé de notre alimentation. Bravo! Le gouvernement est donc l'allié officiel du cancer. Quel beau sponsoring! Qu'à cela ne tienne. Cancer Colère vous répond. Nous ne cesserons pas de combattre la loi du plomb et les suivantes. Et dans cette bataille, vous avez déjà perdu quelque chose, une grande chose. Parce que la lutte contre du plomb nous a rendus encore plus forts. Nous nous sommes soudés, rassemblés, mobilisés à toute vitesse et partout en France. Et ça ne fait que commencer. Ce week-end, nous avons reçu une pluie de messages chez Cancer Colère. Des Alpes à la Bretagne, des Vosges au Gers, de Paris à Marseille, des gens nous rejoignent, veulent créer des antennes Cancer Colère, partagent avec nous leurs sentiments d'impuissance, leur profonde inquiétude, leur histoire intime de la maladie ou de celle de leurs proches. Contrairement au gouvernement, ils et elles veulent agir. Alors agissons, ça prendra du temps. Mais nous mobiliserons les malades et leurs proches dans les hôpitaux. Nous ferons du lien avec tous les collectifs existants ou naissants. Nous relayerons les chiffres, les statistiques, les scandales, car l'agro-industrie déteste les chiffres et les données de santé. Et nous interpellerons les politiques pour exiger un moratoire sur les pesticides. Si Cancer Colère existe depuis 2 mois, si nous luttons contre les causes politiques du cancer, nous voulons nous adresser à la Confédération paysanne, aux apiculteurs de France, à la Fédération nationale de l'agriculture bio, à la CIVAM et à toutes les autres forces avec vous. Dans ce chaos, nous incarnons les conséquences de l'usage massif des pesticides, car nous sommes malades. Mais vous, vous incarnez les solutions. Vous, vous représentez notre espoir, nos espoirs. Vos pratiques d'agroécologie, vos luttes si joyeuses, généreuses et déterminées, votre solidarité paysanne extraordinaire, votre connaissance précieuse du vivant qui nous entoure, vos gestes respectueux pour la nature, les insectes et les animaux. Vous êtes les gardiens de la biodiversité, les gardiennes de l'eau, vous nous nourrissez. Vous êtes l'antidote au poison économique et politique qu'on nous impose. Vous êtes une inspiration, vous êtes notre guérison. Alors on vous le dit aujourd'hui, on va s'accrocher à vous. On va vous soutenir, modestement, mais avec toutes nos tripes, avec nos gueules cassées, nos poils disparus, nos cicatrices. Et nous, de notre côté, on a compris que la lutte a des sacrées vertus thérapeutiques. Merci à tous.
Et la loi du plomb a été adoptée le 8 juillet par l'Assemblée nationale. Depuis, la pétition pour la santé, la sécurité, l'intelligence collective, non à la loi du plomb, a dépassé les 2 millions de signatures et est toujours en ligne sur le site de l'Assemblée nationale. Merci à Johanna Siméan-Germanos, Fekrich Selimi, Francis Château-Renaud, Pierre-Emmanuel Berche, Caroline Chevet, Fabien Grandjean et Fleur Brotteau. Toutes les informations sont sur le site de Radio France à la page Contrevent et on se retrouve la semaine prochaine avec Charlotte Perry.